On va accueillir comme il se doit notre invité du jour. Voilà, c'est Michel Favret. Michel, bonjour, bienvenue à Eau de Radio.
Bonjour Joël.
Voilà, notre rendez-vous mensuel. Alors, avant de présenter la chronique, je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots sur votre association. Il y a un petit coup de gueule quand je vois sourire comme ça, Michel, c'est que...
Oui, notre association, donc Astronomie, Constellations et Galaxies, pardon, oui. Qui est basée en Dordogne, qui travaille dans le domaine de la diffusion de la culture scientifique et plus spécialement en astronomie, avec un planétarium itinérant qui peut se rendre dans les collèges, les lycées, les écoles et d'autres structures comme des centres de loisirs. Et effectivement, je reviens un petit peu amer là, puisque j'étais ce week-end au colloque annuel de l'Association des planétariums de langue française, hein, donc un petit peu la fédération de tous les planétariums en France, qui se passait cette année à Saint-Omer, dans le Nord, Pas-de-Calais. Et ils nous voient arriver un petit peu toujours avec un peu comme des extraterrestres, parce qu'il suffit de regarder une carte de l'implantation des planétariums en France pour se rendre compte à quel point l'Aquitaine est un désert en termes de planétarium par rapport au reste de la France. Et la ville de Bordeaux partage malheureusement avec Marseille le privilège d'être les deux seules grandes agglomérations françaises qui n'ont pas de planétarium. Et encore, à Marseille, ils ont un petit planétarium de 30 places, qui est pas en rapport avec la population, mais à Bordeaux, il y a vraiment rien. Et donc... En ce moment où les chercheurs sont en train de quitter le site de Florac, hein, l'observatoire qui est pas très loin d'ici, pour prendre de nouveaux locaux à Talence, on peut se demander ce que deviendra ce site avec ces magnifiques bâtiments historiques, des instruments qui sont sous les coupoles, et on peut imaginer qu'en y construisant un planétarium digne de l'agglomération, c'est-à-dire 15 mètres, 150 places, hein, pour faire vite, on pourrait avoir un beau pôle de culture scientifique sur la rive droite. Et il me semble qu'une grande agglomération est riche comme Bordeaux, hein, quand on voit les sommes consacrées généralement à la culture, et j'aurais même pas l'impolitesse de parler des sommes astronomiques qui sont consacrées par les collectivités locales au foot ou à d'autres sports, on pourrait peut-être faire un petit effort pour la culture scientifique. Il y va de l'avenir de nos sociétés au travers de l'intérêt que les enfants peuvent porter à la science et peut-être des études qu'ils feront pour être un jour ingénieurs, chercheurs, etc. Ce sont nos médecins de demain, nos voitures de demain, etc., qui sont en jeu. Il faut pas l'oublier.
Très bien, c'est bien noté. Pour Marseille, on a de la famille dans la place, et pour Bordeaux, c'est vrai qu'avec la super région, mais enfin bon. Voilà, on va pas extrapoler, mais fallait le dire. Allez, de suite, pour entrer dans le vif du sujet, vous allez nous parler de l'actu, et notamment du transit de Mercure du 9 mai.
Voilà, encore une fois, parce que j'en avais déjà parlé en mars, en avril, pour que les auditeurs puissent se préparer à cette observation. Malheureusement, la météo a pas été très bonne, mais l'Aquitaine, et plus spécialement la Gironde, ont été un petit peu privilégiées, parce qu'on a eu des éclaircies qui ont permis de le rendre visible. Alors, pour ma part, hein, si je fais un petit témoignage personnel, j'avais constaté que les prévisions étaient très mauvaises en Dordogne et je m'étais rapproché d'une association qui s'appelle Astro Gironde 33 qui avait prévu d'accueillir le public à Socat. Et on a passé une bonne partie de l'après-midi à se lamenter en regardant tomber la pluie, hein, qui semblait ne pas vouloir s'arrêter, mais aussi en recevant des groupes scolaires du village, et les enfants étaient très contents d'en apprendre plus sur le soleil, les planètes, avec des dispositifs pédagogiques que l'association avait mis en place sous un barnum. C'est vers 18h en fin d'après-midi que les éclaircies tant attendues sont finalement arrivées. On a pu voir le petit disque de Mercure devant le soleil et même deux belles taches solaires jusqu'à peu près vers 20h, parfois avec un ciel un peu voilé par les nuages, et finalement ça fait quand même de bonnes photos. Alors je profite de mon passage sur l'antenne de O2 Radio pour rappeler aux auditeurs que cette association, hein, Astro Gironde 33, qui m'a paru très dynamique, accueille le public pour des observations très souvent, à peu près un samedi sur deux, par exemple samedi prochain, avec une thématique sur l'opposition de Mars. Et c'est en général, ça se passe sur le mémorial de la ferme de Richemont à Socat. Et on peut en trouver tous les détails et les rendez-vous sur le site de l'association, donc www.ag33.fr, hein, AG33 comme Astronomie Gironde 33. Alors c'est toujours dommage de voir un événement astronomique rare, hein, comme une éclipse ou ce transit gâché par le mauvais temps, mais pour relativiser ce genre de contrariété, j'ai l'habitude de parler des mésaventures de l'astronome Le Gentil. Hein, je l'avais déjà fait en mars l'année dernière quand on n'avait pas pu observer correctement l'éclipse. Alors je vais faire court. Le Gentil, c'était un astronome du 18e qui s'est lancé dans l'aventure de vouloir observer le transit de Vénus en 1761 en Inde. Alors, je la fais rapide, il a fait le tour de l'Afrique en voilier, hein, à l'époque, pas de moteur, pas d'avion, il n'y avait pas de canal de Suez non plus, donc ça lui prend des mois. Il arrive près de Pondichéry, mais il peut pas s'installer parce qu'on est en guerre avec les Anglais l'empêchent de s'installer. Il essaye d'observer depuis le bateau, mais avec les mouvements, c'est impossible. Il se dit, tant pis, hein, c'était le transit du 6 juin 1761, il se dit, tant pis, je vais attendre le prochain, parce que comme je l'ai déjà expliqué ici, les transits de Vénus obéissent à un cycle un peu particulier. Pendant 120 ans, il n'y en a pas, et après, il y en a 2 à 8 ans d'intervalle. Donc, il attend le suivant. Effectivement, les choses s'arrangent. Il peut construire un observatoire à Pondichéry en 1768. Il vérifie tous les jours que tout va bien, qu'il est prêt pour le transit avec un ciel magnifique. Et le jour du transit, les nuages, il peut rien observer. Hein, le 3 juin 1769. Donc, c'est complètement bredouille qu'il repart vers la France. En route, il a des tas de problèmes. Il est touché par une grave maladie. Il fait naufrage quasiment à l'île Bourbon, hein, ce qu'on appelle la Réunion aujourd'hui. Il faut qu'il attende qu'un autre bateau vienne le reprendre. Et il rentre en France après plus de 11 ans d'absence. Mais il n'est pas au bout de ses surprises, parce qu'aucune de ses lettres n'est parvenue en France, et on le croit mort. On l'a remplacé à l'Observatoire de Paris, mais c'est pas tout. Sa femme s'est remariée, ses enfants avaient partagé l'héritage, et il est complètement ruiné. Donc quand on a un petit tracas d'une éclipse ou d'un transit qu'on ne peut pas voir à cause de nuages, on peut se dire que par rapport à l'œil gentil, c'est pas bien grave, quoi.
La disparition d'André Braïc, rappelez-nous déjà qui est André Braïc également, Michel.
Alors, toute la communauté des astronomes de France, et même au-delà de la France, est en deuil après le décès d'André Braïc le 15 mai dernier, à l'âge de 73 ans, parce qu'il faisait partie des quelques chercheurs qui savent parler simplement au public de leur domaine, avec un enthousiasme communicatif qui suscite l'intérêt pour la science, un peu comme un Hubert Reeves, par exemple. Alors, même si on ne connaît pas forcément, on a partenu son nom, il est probable que de nombreux auditeurs ont pu l'entendre. Hein. Souvent, il passait sur les ondes de France Inter, par exemple, ou à la télévision, dès qu'il y avait un événement astronautique, comme par exemple les grandes étapes de la mission Rosetta dans les années 2014 et 2015. Et si on a partenu son nom, ils avaient sûrement remarqué son débit rapide, hein, et sa passion avec laquelle il parlait de l'espace, car, comme on dit dans les médias, c'était un bon client. Hein. Alors, ces dernières années, il ne manquait jamais de profiter aussi de son accès au micro et caméra ou des nombreux livres qu'il publiait pour évoquer le problème politique du soutien insuffisant à l'éducation, à la recherche, car il était convaincu que ce sont les piliers fondamentaux sur lesquels se construit une société plus juste et plus efficace, aussi bien du point de vue démocratique, culturel qu'économique. Donc c'était un grand bonhomme et il nous manque déjà. Alors pour évoquer un peu sa carrière scientifique, elle était surtout tournée vers le système solaire, hein, dont il était un des grands experts mondiaux. Il a participé à de nombreuses missions astronautiques, comme les sondes voyageurs qui ont exploré les planètes géantes gazeuses et leurs satellites dans les années 1980-90, ou la sonde Cassini qui encore actuellement étudie Saturne. Une de ses réussites les plus marquantes a été la découverte depuis la Terre des anneaux de Neptune en 1984, c'est-à-dire 5 ans avant qu'on ait pu les observer avec la sonde Voyager qui passait là-bas. Alors, les anneaux eux-mêmes portent des noms d'astronomes, mais le plus large, hein, le plus grand, le plus éloigné de Neptune, se décompose en 3 arcs, et il les a officiellement fait baptiser par l'Union Astronomique Internationale Liberté, Égalité et Fraternité, pour rendre hommage à la Révolution française dont on fêtait le bicentenaire en 1989. Donc c'est pour lui rendre un petit hommage à ma façon que je vais peut-être expliquer ici comment on peut réaliser un tel exploit, c'est-à-dire observer quelque chose, les anneaux de Neptune, qu'il est impossible de voir dans un télescope. Avec un sujet que j'ai intitulé « Quand les planètes passent devant les étoiles ». Alors, avant d'aborder le problème des anneaux de Saturne, qui est peut-être un petit peu compliqué, on va commencer par des choses plus évidentes. Quand les planètes intérieures, c'est-à-dire plus proches du Soleil que la Terre, Mercure ou Vénus, passent entre nous et le Soleil, c'est un transit, comme celui de Mercure le 9 mai ou les plus rares de Vénus. On voit alors un petit disque noir de la planète traverser le limbe solaire éblouissant. Alors, comme je l'ai dit et peut-être un peu rapidement en évoquant l'œil gentil tout à l'heure, ces phénomènes étaient importants au XVIIIe siècle pour les astronomes, car ils permettaient de mesurer précisément les distances dans le système solaire par ce qu'on appelle la méthode des parallaxes. Alors, pour expliquer simplement à nos auditeurs, il suffit de faire une expérience toute simple de parallaxe. On tend le bras, on lève un pouce, on ferme un œil, par exemple le droit, et on vise avec le pouce en direction d'un objet, un repère dans le paysage, un arbre, un lampadaire, la fenêtre d'un immeuble voisin, en alignant bien le pouce avec ce repère. Une fois que c'est bien réglé, et sans bouger le bras, on ferme l'œil qui était ouvert, on ouvre l'autre, et on va s'apercevoir que le pouce est décalé par rapport au repère qu'on avait dans le paysage. C'est ça la parallaxe. Alors on va pas faire de trigonométrie à l'antenne, hein, ce serait peut-être un peu embêtant, mais on peut comprendre facilement que ça dépend, ce décalage, du triangle formé par les deux yeux et le pouce, donc de la distance qui est entre les deux yeux et de la longueur du bras. Et si on mesurait très précisément ce décalage, c'est-à-dire l'angle formé par les deux visions différentes, En connaissant la distance qu'il y a entre les deux yeux, on pourrait calculer la longueur du pouce. Et donc c'est comme ça que les astronomes, avec les transits, arrivent à déterminer des distances, par exemple, de la Terre à Vénus, en observant, mais depuis des points très éloignés sur Terre. Par exemple, l'Amérique du Sud et l'Inde, où elle est le gentil. Et comme on ne peut pas vraiment mesurer le tout petit angle que fait l'écart d'observation, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure très précisément le temps de certains moments des tops, hein, si je peux dire, dans le phénomène. Par exemple, le premier contact, quand le petit disque de la planète vient toucher le bord du Soleil, et au moment où elle va rentrer complètement, qu'on appelle le deuxième contact. Et à partir de là, on peut calculer ces distances. Alors, ça sort un peu du sujet, mais la parallaxe dont je viens de parler, c'est ce qui permet aussi de mesurer les distances des étoiles lointaines. Mais là, pour prendre une base encore plus grande, on fait des observations à 6 mois d'intervalle. C'est-à-dire quand la Terre, hein, si je peux dire comme ça, est à chaque bout de son orbite, et ça fait un écart comme ça de 300 millions de kilomètres à la base, ce qui permet de mesurer plus précisément les distances. Alors, les transits, on pourrait dire que c'est un transit, même si on ne l'appelle pas comme ça, c'est bien plus spectaculaire quand c'est la Lune qui passe devant le Soleil. Donc on appelle ça une éclipse de Soleil. Dans l'Antiquité, ça a permis, par exemple, en observant les éclipses de Soleil d'un côté et les éclipses de Lune, c'est-à-dire quand la Lune passe dans l'ombre de la Terre, ça a permis de savoir que la Terre était ronde, tout simplement parce que l'ombre de la Terre est arrondie sur la Lune, et on pouvait évaluer, mais je ne pourrais pas l'expliquer ici, il faudrait faire un dessin, que la Lune était à peu près 4 fois plus petite que la Terre. Mais la connaissance la plus importante qu'on ait pu obtenir par les éclipses concerne surtout le Soleil. Parce qu'on a un coup de chance extraordinaire. La Lune est 400 fois plus petite en diamètre que le Soleil, mais elle est 400 fois plus près de nous. Donc quand la Lune passe devant le Soleil, en général, elle cache complètement le disque solaire. Et ça nous rend visible ce qu'on appelle la couronne, hein, qui fait comme une couronne brillante autour du disque noir dans une éclipse, qui est, on pourrait dire, un peu comme une atmosphère du Soleil, très très chaude. Et son étude a permis de mieux connaître les gaz, par exemple, qui composent le Soleil. Je rappelle que l'hélium, par exemple, qui vient de Hélios, le Soleil, a d'abord été découvert dans les spectres du Soleil, avant qu'on le trouve sur Terre. Mais pendant une éclipse, on peut aussi observer les protubérances, les espèces de jets qui se font en bord du Soleil, à la surface du Soleil. Et ça nous renseigne sur le fonctionnement interne du Soleil, un peu comment la température, quelle est sa température, comment se font des espèces de bouillonnements à l'intérieur du Soleil. Et il faut savoir que c'est un astronome français, Bernard Liot, qui a inventé dans les années 1930 un dispositif optique qui permet de créer des éclipses artificielles. On appelle ça un coronographe, ce qui permet en toute saison de pouvoir observer le Soleil comme s'il y avait une éclipse. Par exemple, au pic du Midi dans les Pyrénées, où j'étais l'an dernier. Et le plus grand télescope, d'ailleurs, de cet observatoire s'appelle TBL, pour télescope Bernard Liot. Alors, dans notre système solaire, il y a aussi d'autres phénomènes de lune, si je peux dire comme ça, qui se masquent, on dit occultation, ou qui s'éclipsent mutuellement. Et on appelle ça les phénomènes mutuels. Dans le jargon astronomique, on dit même FEMU. Des satellites de Jupiter ou de Saturne. Alors, ils ne sont observables que dans des conditions particulières, d'alignement de la Terre avec la planète et les satellites, et ça se produit 2 fois pour chaque orbite de ces planètes. Donc, pour Jupiter, c'est tous les 6 ans et demi, à peu près. La dernière fois, c'était en 2015, et tous les 15 ans pour Saturne, et la dernière fois, c'était en 2009. Et c'est l'occasion pour les astronomes amateurs de participer avec les professionnels à des observations utiles.
Et les anneaux de Neptune, Michel ?
Alors, pour les anneaux de Neptune, il faut s'éloigner de notre étoile, le Soleil, et regarder ce qui se passe pour les autres étoiles. Contrairement aux planètes intérieures, Mercure et Vénus, qui passent de temps en temps entre nous et le Soleil et font un transit, donc on voit passer le petit disque noir de la planète devant le limbe brillant du Soleil. Pour les planètes extérieures, ça n'arrive jamais, elles passent jamais entre nous et le Soleil, mais on peut les voir passer devant d'autres étoiles. Et c'est ce qu'on appelle une occultation. Alors, ce qui se passe est complètement différent, c'est le gros disque, si je peux dire comme ça, parce qu'ils ne sont pas si grands que ça, de la planète qui va masquer une étoile qui, est dans le ciel, n'est qu'un tout petit point. Alors, ça se produit assez souvent, parce qu'il y a une multitude d'étoiles dans le ciel, mais c'est plus intéressant et plus riche, disons, en termes de connaissances, quand ça se passe avec une étoile très brillante. Et là, c'est un peu plus rare. Ça permet de mieux connaître la planète que ce qu'on observe habituellement, et surtout son atmosphère. Alors, je vais vous faire une petite explication. Si on imagine qu'une planète sans atmosphère passe devant une étoile brillante, c'est le bord bien net de la planète qui va couper brusquement le faisceau de lumière que nous envoie l'étoile, qui va donc s'éteindre un peu comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Et à l'inverse, elle va se rallumer brusquement quand elle ressortira de l'autre côté de la planète. Donc ça n'a d'intérêt que pour connaître précisément la position de la planète dans le ciel. Par contre, si la planète possède une atmosphère gazeuse, c'est différent. La luminosité de l'étoile va diminuer doucement au fur et à mesure qu'elle traversera des couches plus denses de l'atmosphère. Un peu, si je prends une image, comme des phares de voiture qui deviennent de plus en plus faibles au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans un brouillard de plus en plus épais. Et donc, par cette observation, alors ça se fait qu'avec des grands télescopes, on peut arriver à mieux connaître l'atmosphère de la planète. On va par exemple savoir quelle est son épaisseur, savoir s'il y a des couches de densité différentes suivant l'altitude, et même connaître les gaz qui composent l'atmosphère en analysant comment le spectre de l'étoile est modifié par cette traversée de l'atmosphère de la planète. Alors c'est exactement ce genre d'expérience qu'avait préparé une équipe de chercheurs, dont André Braik en 1984, avec des grands télescopes situés au Chili, mais ils ont eu en plus une petite surprise. Avant d'être occultées par Neptune, les étoiles s'éteignaient brièvement à plusieurs reprises, puis de manière symétrique après la ressortie de l'étoile de l'autre côté de Neptune. Et c'est comme ça qu'on venait de découvrir les anneaux de Neptune, qui seront observés seulement 5 ans plus tard par la sonde Voyager 2. Donc je rappelle pour les auditeurs que toutes les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, possèdent des anneaux, mais que seuls ceux de Saturne sont visibles directement depuis la Terre, même dans un petit télescope. Ceux des autres planètes sont bien trop fins et trop peu lumineux pour être visibles, même dans les plus grands télescopes qu'on a sur Terre. Alors cette méthode des occultations d'étoiles est aussi utilisée pour les astéroïdes, ce qui permet, en ayant plusieurs sites d'observation sur le trajet de leur ombre sur la Terre, de déterminer leur forme et leur taille. Et pour finir, si on va encore plus loin, on peut s'intéresser aux planètes qui passent devant les étoiles, mais des planètes qui ne sont pas de notre système solaire, des planètes qui orbitent autour des autres étoiles, qu'on appelle généralement des exoplanètes. Je rappelle que la première a été découverte à l'Observatoire de Haute-Provence, en France, par une équipe franco-suisse en 1995. Aujourd'hui, on en connaît plus de 3400, sans compter celles qui sont encore en attente de confirmation. Alors, il existe plusieurs méthodes de détection indirecte de ces exoplanètes, car il est totalement impossible de les observer directement, et l'une de ces méthodes est justement celle des transits. Il est rare, statistiquement, que l'inclinaison de l'orbite d'une planète autour d'une étoile lui permette de passer entre nous et l'étoile, mais quand c'est le cas, c'est un moyen facile de la détecter, car il se produit un transit. Alors, bien entendu, ça n'a rien à voir avec un transit de Vénus ou de Mercure, on voit le petit point noir de la planète passer devant le limbe solaire. Même dans les plus grands télescopes, une étoile lointaine reste un point. Et ce qu'on peut juste observer, c'est le fait que ce petit disque de la planète qui passe devant l'étoile va bloquer une partie de la lumière que nous envoie l'étoile, et on arrive à mesurer comme ça une petite baisse de la luminosité de l'étoile. Alors quand c'est très fort, parfois dans les 3%, donc c'est une grosse Jupiter, on va dire, qui passe devant un petit soleil, c'est même visible, enfin mesurable, on va dire, dans un télescope d'amateur, et je l'ai déjà fait. Pour la plupart des cas, il faut quand même un télescope plus gros. Si on imagine par exemple que des extraterrestres très loin de nous nous observent et ont la chance de voir passer Jupiter devant le Soleil, ça fait baisser la lumière que de 1%. Et pour des toutes petites planètes comme la Terre, c'est 1/10 millième de la luminosité qui va baisser. Donc il faut des dispositifs bien plus sensibles, et par exemple des télescopes spatiaux comme COROT, lancé par l'ESA en 2006, ou Kepler, envoyé par la NASA en 2009, qui observent des milliers d'étoiles pour détecter les transits des planètes qui passent devant ces étoiles. Alors ils ont officiellement aujourd'hui à leur tableau de chasse plus de 2300 exoplanètes découvertes. Donc c'est la méthode qui a permis de découvrir le plus d'exoplanètes jusqu'à maintenant. Donc pour conclure, je dirais, comme on le voit, le fait que les objets de l'univers passent parfois les uns devant les autres, ça amène beaucoup d'enseignements pour les astronomes.
Allez, dernière partie de cette chronique numéro 21, chronique astro présentée donc par vous, Michel Favre, et le ciel du mois.
Voilà, alors en juin et la fin du printemps, on approche du solstice d'été, et donc les jours sont le jour le plus long de l'année, donc c'est pas très pratique pour l'observation du ciel, puisque les nuits sont courtes, elles sont de plus en plus tard. En ce moment, la nuit noire, après le crépuscule, est vers 23h, et fin juin, ce sera un bon quart d'heure plus tard encore. Pour ce qui concerne les étoiles et les constellations, on est un peu à la charnière entre le ciel du printemps et le ciel de l'été. Donc la constellation typique du printemps, c'est le Lion, j'en ai déjà parlé ici. En ce moment, il est déjà en train de commencer de descendre, quand on regarde le ciel noir, vers le sud-ouest. Et vers la fin du mois de juin, il sera déjà presque en train de se coucher en début de nuit. On le situe facilement dans le ciel, car il est juste au-dessus de la brillante planète Jupiter, qu'on peut bien remarquer. Et du coup, donc côté ouest, on a le ciel du printemps qui commence à se coucher. Et côté est, on a le ciel de l'été typique, avec ses trois étoiles brillantes qui commencent à se lever. Les trois étoiles qui forment ce qu'on appelle le triangle de l'été. Vega, Altaïr et Deneb, les deux dernières étant encore pas très hautes sur l'horizon hein, en début de nuit. Fin juin, le triangle sera bien plus haut dans le ciel et bien visible vers l'est. J'en parlerai, je pense, à la prochaine chronique. Mais comme à chaque fois, pour ce qui est des constellations, du repérage des étoiles dans le ciel, je renverrai les auditeurs plutôt sur notre site web, hein, www.constellationsetgalaxies.org, dans la rubrique « Le ciel du mois » qui se trouve dans la partie « Astronomie ». Car là, il y a des cartes qui permettent de situer plus facilement tous ces objets dans le ciel.
Allez, quelques infos sur les planètes.
Alors, je viens de le dire, Jupiter est très brillante et très blanche dans le ciel. Sa meilleure période d'observation est passée, puisque, comme je le disais, elle commence déjà sa descente en début de nuit avant d'aller se coucher. Donc, si on veut la regarder aux jumelles, par exemple, pour essayer de voir ses quatre principaux satellites, hein, ce qui est possible dans une simple paire de jumelles, il faut se dépêcher de le faire plutôt tôt dans la nuit et plutôt tôt dans le mois de juin. Plus on attendra, moins ce sera bon. Ces jours-ci, elle s'est faite voler la vedette par Mars, qui est devenue la planète la plus brillante du ciel, à l'occasion de son opposition. Dimanche, 22 mai, la Terre est passée entre elle et le Soleil. Il est donc facile de comprendre que quand le Soleil se couche, Mars se lève, donc on la voit se lever en début de nuit du côté de l'Est, un peu comme la pleine Lune. Alors, c'était le 22 mai, mais par le jeu des orbites elliptiques des planètes, c'est lundi prochain, le 30 mai, que la distance sera minimum entre les deux planètes. Mais c'est quand même dans les 75 millions de kilomètres. Mais comme c'est le moment où elle est la plus proche, elle est plus brillante et plus grosse dans le ciel. C'est le bon moment pour l'observer. Vers, en ce moment, minuit, une heure. Faut la laisser se monter quand même un petit peu dans le ciel. Alors, dans une paire de jumelles, elle reste minuscule. Ça va faire un tout petit disque orangé. C'est pour ça que ça vaut le coup de se rapprocher d'une association d'astronomie comme Astro Gironde 33 que j'évoquais tout à l'heure pour l'observer dans un télescope. Là, on pourra voir sa calotte polaire qui est brillante et distinguer quelques formations colorées à sa surface. Donc si la météo est bonne, je rappelle que cette association accueillera le public samedi soir au mémorial de la ferme de Richemont à Socat pour observer Mars entre autres. Alors Mars, elle traverse à reculons en ce moment parce qu'on est en train de la doubler, la constellation du Scorpion, et légèrement plus à l'est dans la même constellation, on a une autre planète qui est un peu moins brillante et légèrement jaunâtre, c'est Saturne. Donc c'est une raison de plus pour aller mettre l'œil dans un télescope parce qu'on pourra voir les beaux anneaux de Saturne.
Et en ce qui concerne les éphémérides?
Alors en juin, contrairement à mai, pas d'événement exceptionnel, mais comme souvent, la conjonction de la Lune avec des planètes qui peuvent être jolies à observer ou à photographier. Le samedi 11 juin, en début de nuit, la Lune passe presque au premier quartier, se rapproche de Jupiter, dont on vient de parler. Le jeudi 16 et le vendredi 17, la grosse lune gibbeuse se rapproche de Mars, un peu plus le 17 que le 16. Et la nuit suivante, du samedi 18 au 19, elle passera près de Saturne. Et donc pour toutes ces observations des planètes ou des belles constellations du ciel, je souhaite à tous un bon ciel.
Très bien, merci Michel Favret. On va pas se quitter comme ça néanmoins. Allez, Rock, quelques mots sur Constellations et Galaxies, le site internet, quelques infos et si vous avez un avant-goût de ce que vous allez pouvoir traiter le mois prochain. Allez, trois questions donc, pour le prix d'une. C'est cadeau.
Donc le site web www.constellationsetgalaxies, tout au pluriel.org, mais vous mettez les deux mots Constellations et Galaxies dans un moteur de recherche.
On trouve facilement.
On est hyper bien référencés, voilà. On est les premiers.
Vous êtes les premiers.
Alors sur le site, on trouve la partie Le ciel du mois dont je viens de parler avec les cartes du ciel et toutes les infos concernant les quelques phénomènes un peu plus développés que ce que je fais rapidement ici. Il y a aussi bien sûr la partie planétarium qui concerne tous les publics de la région qui veuillent nous accueillir et en particulier les scolaires encore avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année scolaire et pour cet été, pourquoi pas, des centres de loisirs ou de vacances qui voudraient parler un peu du ciel. Le gros avantage du planétarium, c'est quelle que soit la météo et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, on peut parler du ciel et montrer des constellations et quelques phénomènes du ciel. Pour la chronique du mois prochain, très honnêtement, j'ai pas encore eu le temps d'y réfléchir vraiment.
Oui, on pose la question en amont.
Mais il y a un sujet sur lequel on n'est jamais venu ici, je pense, et on en avait déjà parlé, je crois, avec Joël. On pourrait parler un jour des étoiles, comment elles se forment, comment elles évoluent et comment elles finissent par mourir, soit gentiment, si on peut dire, comme le Soleil, soit plus méchamment avec des énormes explosions comme les très grosses étoiles.
Très bien. En tout cas, merci Michel, parce que c'est du travail de présenter ces chroniques, de les réaliser. Donc, on se voit le mois prochain. On garde le même moment, mercredi, le dernier mercredi du mois de juin.
Voilà, pas de problème.
Très bien. En tout cas, merci à vous. Allez.